Plus tôt dans l'émission, si vous avez manqué, on parlait avec Fabrice de Pierrebourg de ces attentats qui sont survenus au courant de la journée d'hier en Nouvelle-Zélande, où c'est un homme qui emprunte une folie nationaliste dont il avait les idoles, Anders Behring Breivik, qui est un membre de l'extrême droite qui a battu 77 personnes en Norvège. Il avait inscrit le nom d'Alexandre Bissonnette sur l'un de ses chargeurs. C'est quelqu'un qui adhère à la théorie du grand remplacement, bref, qui entre dans cette mouture-là. Et Fabrice de Pierrebourg nous racontait à quel point, pendant des années, les autorités ont laissé un peu de côté la thèse de l'extrême droite, parce qu'on dit que c'est du terrorisme intérieur et c'est plus difficile à contrôler. David Morin, professeur de politique à l'Université de Sherbrooke et co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent et du terrorisme. Bonjour, professeur Morin.
Bonjour, Monsieur Beaumont.
Maintenant, on doit prendre au sérieux et on doit accorder toute l'attention qu'elle mérite, cette montée de l'extrême droite.
Oui, absolument. Alors en fait, l'extrême droite, c'est quand même pas de nouveau, hein. C'est une des idéologies qu'on connaît probablement le mieux en Occident pour des raisons historiques. Aux États-Unis également, en fait, hein, l'extrême droite a toujours été très présente, notamment au cours dans l'après-Seconde Guerre mondiale, etc. Donc les autorités américaines ont longtemps surveillé l'extrême droite, la considérée effectivement comme une menace à la sécurité nationale, mais avec l'essor du terrorisme djihadiste depuis les années 2000, etc., les pouvoirs publics étaient beaucoup, beaucoup concentrés sur la menace djihadiste, et en fait, dans l'ombre un peu, si vous voulez, du djihadisme, l'extrême droite s'est restructurée, d'abord sur le plan idéologique, avec notamment les réseaux sociaux. On a assisté à une forme de transnationalisation des idées d'extrême droite, et puis évidemment avec des petits groupuscules beaucoup plus violents qui se sont inspirés de cette idéologie-là. Et donc c'est là où on en est au jour d'aujourd'hui. Et comme vous le disiez très bien en introduction, je pense que depuis 2011 et Andreas Breivik, il y a eu vraiment un réveil. Mais les pouvoirs publics ont quand même pris beaucoup de temps en disant toujours « Oui, bon, mais écoutez, pour l'instant, c'est vraiment les djihadistes qu'il faut qu'on surveille, etc. » Et donc là, je pense qu'après ce qui vient de se passer en Nouvelle-Zélande, clairement, on ne pourra plus l'ignorer.
Le président des États-Unis estime que le suprémacisme blanc n'est pas vraiment une menace croissante, dit-il dans une déclaration. Est-il dans l'erreur ou il veut surtout pas on sait là qu'il y a une fibre, et même celui qui a commis l'attentat hier a déclaré qu'il voyait une montée de l'identité blanche en Donald Trump. On a vu des membres obscurs du KKK tourner autour. David Duke, entre autres, et d'autres membres du alt-right américain supporter le président américain.
Oui, alors vous avez raison. Est-ce que c'est parce qu'effectivement il sait qu'il y a une partie de l'électorat qui l'appuie, qui est nationaliste blanc, qu'il dit ça, ou alors simplement parce qu'il lit pas les journaux, en tout cas pas les mêmes que nous, je ne peux pas vraiment répondre, mais écoutez, quand vous regardez les résultats électoraux, par exemple en Europe, au cours des 5 dernières années, on voit très très bien que le nationalisme, que l'extrême droite gagne du terrain. Alors il faut faire attention, il faut faire la distinction entre l'idéologie d'extrême droite, les partis d'extrême droite et le terrorisme d'extrême droite. Évidemment, ce sont deux choses différentes, de la même manière qu'on fait la différence entre les islamistes et puis les islamistes violents. Reste que, évidemment, il y a quand même des liens entre les deux. Donc, effectivement, je pense que M. Trump ne dit pas toute la vérité quand il affirme qu'il n'y a pas une montée du nationalisme blanc en Occident.
En terminant, professeur Morin, est-ce qu'il faut porter plus attention à ceux qui vont perpétrer le message, exemple, que ce soit les détenteurs des canaux de diffusion, les Renaud Camus de ce monde avec son grand dérangement, son grand remplacement, lui dit que c'était pas une théorie violente, mais pourtant il a été condamné pour incitation à la haine.
Oui, ben il y a deux éléments là-dessus, évidemment, c'est que l'organisation un peu particulière de ces groupes, c'est beaucoup sur Internet, et c'est ce qui rend difficile de les surveiller, parce qu'avoir des idées d'extrême droite, c'est pas contre la loi ici. Ce qui est contre la loi, c'est de tenir des propos haineux, menaçants, la violence, etc. Donc, je pense qu'il y a une double responsabilité, celle, effectivement, des réseaux et des médias sociaux, d'essayer de mieux contrôler ce qui circule, mais en même temps, il faut aussi renforcer l'esprit critique des gens qui consomment ces nouvelles-là, parce que on ne pourra pas fermer l'interrupteur d'Internet. Donc, il faut aussi qu'on fasse beaucoup plus d'éducation pour que les gens reconnaissent ce qu'il y a de bon et de moins bon sur le net.
Merci infiniment d'avoir été avec nous, professeur Morin.
Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.
Il est co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation.